Monsieur Bruno le Marquis, donc bonjour. Donc vous êtes le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, mais aussi le coordinateur résident et humanitaire en Haïti. Nous allons parler bien sûr de Haïti. Haïti, il y a 12 ans, a subi un gros tremblement de terre que beaucoup de gens se rappellent. Donc, depuis 12 ans, Haïti a connu de multiples crises, des crises multidimensionnelles, aussi bien politiques, climatiques et humanitaires. Donc, peut-être pour commencer, où en est Haïti justement aujourd'hui?
Merci, bonjour. Haïti est un pays avec... comme vous l'avez dit, énormément d'instabilité, énormément de vulnérabilité. C'est un État fragile. C'est un pays qui combine beaucoup de choses, qui a beaucoup de choses sur ses épaules. C'est un pays, il faut commencer par là aussi, c'est un pays où il y a énormément d'opportunités qui ne sont pas toutes exploitées, maximisées, mais c'est un pays qui a énormément de richesses aussi. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire unique, qu'il y a une culture unique. C'est le pays des artistes, il y a du potentiel économique, il y a une jeunesse, c'est vibrant, etc. Mais c'est un pays qui, depuis très longtemps, va à travers des cycles d'instabilité. Récemment, pour ne prendre que les dernières années, et y compris les derniers mois, sur un terreau déjà de fragilité, d'instabilité, de vulnérabilité, se sont rajoutées des crises multiples, notamment depuis 2018. C'est une accélération de ces crises qui a amené le pays au point où il en est actuellement, qui est une situation assez grave, quoi. Donc 2018-2019, il y a eu des troubles sociopolitiques qu'on a appelés pays lock, et pays lock en créole, ça veut dire on ferme le pays. Le pays a été en gros sous confinement à cause de troubles sociopolitiques, sous confinement avant Covid, donc le pays a été complètement bloqué. Ensuite, il y a eu Covid, qui fort heureusement a pour le moment relativement épargné Haïti. Mais surtout 2021, l'année 2021 a été une série noire incroyable en Haïti à partir du mois de juin. À partir du mois de juin, chaque mois, il y a eu une crise. Au mois de juin, ça a été un niveau de clash entre gangs, un niveau jamais atteint auparavant, tout à coup. Et il faut bien savoir qu'en Haïti, il y a toujours des gens ou des groupes ou des intérêts qui tirent les ficelles. Donc rien n'est dû au hasard. En juillet, il y a eu l'assassinat du président Jovenel Moïse. En août, il y a eu un nouveau tremblement de terre avec des conséquences dramatiques dans le sud du pays. En septembre, il y a eu des rapatriations au niveau de migrants haïtiens, notamment des États-Unis. Des migrants qui, pour la plupart, étaient j'appellerais des vieux migrants. C'était des gens qui ont quitté Haïti après le séisme de 2010 pour s'installer légalement pour la plupart au Brésil et au Chili. Ensuite, en octobre et en novembre, il y a eu ce qu'on appelle la crise du fioul, où les gangs qui sont devenus tellement puissants ont bloqué pendant plusieurs semaines les deux ports pétroliers d'Haïti, donc ont amené le pays sur ses genoux. Il n'y avait plus une goutte au marché officiel, plus une goutte de carburant au marché noir. Les prix ont explosé. Donc, pour donner qu'un exemple, certains hôpitaux avaient commencé à fermer. Voilà, donc tout ça se cumule dans un contexte avec une grande polarisation au niveau politique, une grande instabilité au niveau politique, une situation sécuritaire très dégradée, une situation économique très dégradée. Donc la situation est fragile en Haïti.
Et on parle de toutes ces crises multiples. Où en est-on au point de vue humanitaire? Je pense que la situation est très grave, n'est-ce pas?
Alors, mon discours sur ça, c'est que énormément des efforts qui sont faits en Haïti, y compris par les Nations Unies, se penchent sur les symptômes. Donc les symptômes, les manifestations des problèmes, donc l'humanitaire, je vais en parler, la migration, les niveaux de migration, l'insécurité, tout ça c'est des symptômes du mal-être et des causes qui expliquent la situation d'Haïti. Au point de vue humanitaire, la situation se dégrade, continue à se dégrader. À part le tremblement de terre du mois d'août 2021, l'essentiel des besoins humanitaires ces dernières années sont dus à des crises créées par l'homme. Donc c'est dû à des problèmes économiques, c'est dû à des problèmes monétaires, c'est dû aux crises sociopolitiques. Parce que à part ce tremblement de terre, Haïti a été relativement épargné depuis 2016 par les aléas climatiques. Les chiffres pour 2021 vont continuer à augmenter. 4,9 millions, donc à peu près 46% de la population aura des besoins humanitaires sous une forme ou une autre. Notre plan de réponse humanitaire pour l'an prochain visera 2,5 millions de ces personnes parmi les plus vulnérables, y compris dans la zone affectée par le tremblement de terre. Les taux d'insécurité alimentaire continuent à augmenter marginalement par rapport à 2021, avec des chiffres, et je cite toujours ça comme pour illustrer l'anomalie, c'est une anomalie, les chiffres d'insécurité alimentaire sont plus ou moins équivalents à ceux de la République centrafricaine et du Sud-Soudan, alors qu'on est au milieu des Caraïbes. Voilà, donc la situation humanitaire continue à se dégrader, mais c'est la température du thermomètre. Au niveau des financements humanitaires, Haïti est souvent un peu laissé de côté. C'est un peu une crise délaissée. Il y a énormément de fatigue des bailleurs de fonds, des amis d'Haïti, puisque l'essentiel des crises étant créé par les hommes et par la politique notamment, ça contribue à cette fatigue. Le plan de réponse humanitaire de l'an dernier est financé à peu près un tiers. On avait lancé un flash à pile après le tremblement de terre du mois d'août qui a été mieux financé, mais il y a cette fatigue. Donc voilà. Ensuite, la ligne qu'on pousse au niveau des Nations Unies ici, de l'équipe de pays avec la mission politique, la BINUS, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte de... On travaille en gros sur trois lignes. Premièrement, essayer de faire en sorte qu'on se rapproche des causes structurelles, des obstacles structurels qui expliquent pourquoi toute cette instabilité, pourquoi cette fragilité. Donc, moi, je les appelle les nœuds gordiens d'Haïti. Et donc, il y en a un certain nombre. Il y a peut-être, dans une certaine mesure, la nature du système politique, la manière dont la politique est organisée, ça c'est un. Mais ensuite, surtout, ceux sur lesquels on essaye de se pencher, c'est les jumeaux corruption-impunité, qui mine vraiment énormément de choses en Haïti, qui mine la confiance des investisseurs, des citoyens, etc. Donc c'est très profondément ancré, corruption, impunité. Et puis un autre nœud gordien, et c'est difficile à savoir lequel est à la source duquel, parce que tout est lié, c'est la nature du modèle économique en Haïti, qui est un modèle de rente, qui est avec une élite économique très réduite. Donc c'est une élite extractrice de richesses. Une économie de rente, une économie essentiellement d'importation depuis les 30 dernières années, depuis la période dans les années 80 des ajustements structurels. Haïti a pris un certain nombre de décisions qui n'ont jamais été revues et qui, en gros, c'est open borders. Haïti a liquidé ses tarifs douaniers il y a 30 ans. Et donc, sous-protège son industrie qui n'existe quasiment plus, sous-protège son agriculture et donc maintenant devenu, par exemple, le deuxième importateur de riz américain au monde. Haïti est le deuxième importateur de riz américain au monde alors que Haïti produit du riz, mais le riz n'est plus compétitif. Donc ça, c'est les trois choses, corruption, impunité et modèle économique sur lesquels, si on ne s'attaque pas à ces problèmes-là, le pays va continuer à tourner en rond. Donc il faut, ça c'est le premier axe, aller vers le structurel, le structurel, le structurel. La deuxième ligne pour les agences des Nations Unies ici, puisqu'Haïti, c'est, on l'appelle souvent la République des ONG, mais on peut aussi dire que c'est la République des projets. Il y a beaucoup de projets, mais il y a peu d'impact. Il y a une efficacité de l'aide qui est très faible. Donc c'est comment faire en sorte qu'on s'organise différemment pour appuyer la mise en place, l'opérationnalisation de politiques publiques, pas à travers des projets à droite, à gauche, mais vraiment en appuyant l'État, en appuyant les structures de l'État à se renforcer et à mettre en œuvre de manière graduelle des politiques publiques. Par exemple, on est en train d'appuyer la politique publique sur la protection sociale, la politique publique sur la sécurité alimentaire, la gestion des risques et des désastres, etc., mais de manière structurée pour éviter cette approche projet. Et la troisième approche, c'est d'essayer de travailler en coalition avec tous nos partenaires internationaux qui sont un peu dans le même dilemme. On est tous dans le même bateau en Haïti. Beaucoup d'investissements externes, d'aide publique au développement, mais une très faible efficacité, un très faible impact. Donc, arriver avec eux sur cette même démarche que je viens de décrire, de se diriger vers les causes. Donc, c'est tout un mouvement qui est en cours d'essayer. Après, it takes two to dance a tango, donc il faut vraiment que les partenaires haïtiens soient dans la même approche, je veux dire.
Bien sûr, il y a énormément de défis, comme on vient juste de parler, mais justement, on parle beaucoup de reconstruction de Haïti. Comment voyez-vous ça sur le terrain? Est-ce qu'il y a vraiment une reconstruction de Haïti ou si c'est vraiment pas le cas?
Alors, je peux parler en commençant du dernier séisme. Bon, ils sont absolument pas comparables, hein, parce que 2010, c'est un méga, méga, méga événement qui a frappé le centre politique, économique de la capitale. C'était quasi unique, quoi, qu'une capitale soit frappée au cœur, le gouvernement, etc., etc. Donc, on peut pas comparer les deux. Mais il y a des leçons apprises et on essaye d'être très conscient de ces leçons apprises dans la gestion du tremblement de terre de 2021. Et une des grosses leçons apprises, c'est que, vu la magnitude du tremblement de terre de 2010 et vu l'afflux inimaginable de partenaires qui sont arrivés juste après, ça a submergé et mis de côté le leadership haïtien. Le leadership haïtien, les organisations haïtiennes, les capacités haïtiennes, etc., ont été submergées et se sont mis de côté. Donc, et de là a découlé énormément de dysfonctionnements de la reconstruction par manque de leadership haïtien, par manque d'alignement avec les véritables priorités haïtiennes, à cause de toute cette la taille, le nombre, le volume d'acteurs un peu extérieurs. Donc on est très conscient de ça pour 2021. Par exemple, le processus d'évaluation des besoins, le processus de définition d'une stratégie de reconstruction. On a bien fait en sorte que nous sommes, Nations Unies et d'autres, en arrière. On est vraiment en arrière. On est là pour appuyer. Les capacités sont ce qu'elles sont. Donc on est là pour appuyer. Mais tout a été fait sous leadership national. Et tout a été fait dans les temps. Tout a été fait de manière, compte tenu de la situation ici, qui est compliquée, mais de manière assez remarquable. Donc quelques semaines après le tremblement de terre, on avait déjà l'évaluation des besoins conduite par le gouvernement avec l'appui des partenaires. Donc ça, c'est important. Le plan de reconstruction est maintenant quasi finalisé, c'est-à-dire c'est un papier, c'est un document, mais ça explique les priorités de la reconstruction, les approches de reconstruction, etc. Le gouvernement a annoncé une conférence internationale des amis d'Haïti et des pays donateurs le 16 février, avec l'appui des Nations Unies, mais aussi une grosse différence par rapport à d'autres conférences du même genre, c'est que c'est la conférence du gouvernement haïtien appuyée par les Nations Unies. Donc c'est vraiment eux qui sont le lead. Donc c'est important de responsabiliser et de respecter ce leadership national et de s'aligner derrière. Après, par rapport à la reconstruction de 2010, bon, il y a beaucoup de documents qui ont été écrits sur ça, etc. Il y a eu un décalage entre les promesses et la réalité. Il y a eu un décalage entre toutes les visions qui ont émané de cette période, toutes les visions de reconstruction d'Haïti, de transformation économique, transformation sociale, transformation spatiale, etc. Ça a été un peu du rêve en couleur, dans une certaine mesure, un peu déconnecté d'une réalité haïtienne. Donc, ça a généré des frustrations entre les promesses, les expectations, et puis la réalité. Et puis, d'autre part, la reconstruction, énormément de choses, c'est de la gouvernance, quoi. C'est de la gouvernance. Reconstruire, c'est de la gouvernance. Travailler sur la gestion des risques et des désastres, c'est de la gouvernance. Les processus de gouvernance en Haïti, les processus de prise de décision, les processus de, par exemple, pilotage des stratégies nationales, pilotage des politiques publiques, etc., il y a des faiblesses. Donc, il y a eu aussi un décalage entre ce qui aurait dû se passer et ce qui s'est passé. Par exemple, une reconstruction physique, ça touche beaucoup, par exemple, au respect de la loi, au respect des codes, au respect de la loi. Reconstruire mieux, ça veut dire on ne reconstruit pas dans les endroits vulnérables, on ne reconstruit pas dans les endroits à risque, on ne construit pas dans les ravines, on ne construit pas dans les mornes, dans les collines qui sont sujettes à glissement de terrain, etc. Donc ça veut dire qu'il faut un système d'inspection, il faut une culture de respect de la loi, etc., etc. Ce sont des choses qui sont assez peu développées en Haïti. Donc énormément des mêmes vulnérabilités, il y a eu des progrès, je ne veux pas nier qu'il y a eu des progrès, etc., qu'il y a eu énormément d'efforts, mais dans une certaine mesure, les mêmes vulnérabilités ont été rebâties.
Et comment voyez-vous 2022 pour Haïti?
Alors, ma seule réponse quand on me pose cette question, c'est que j'ai pas une boule de cristal. C'est une année au niveau politique extrêmement compliquée et sensible, à cause d'échéances, sans aller dans les détails, mais les échéances des mandats, etc., et compte tenu du fait que la structure actuelle de gouvernance et du fait de la vacance de pouvoir, de l'assassinat du président, du fait que le pouvoir législatif a pas entièrement, mais très grandement bancal et caduque depuis janvier 2020, il reste dans ce pays de 11 millions d'habitants 10 élus depuis janvier 2020, c'est-à-dire un tiers du Sénat. Il n'y a pas eu d'élection depuis. Donc voilà, une situation très polarisée et une année 2022 à risque. Le way forward, ça ne peut être que le dialogue inter-haïtien. En créole, on dit « chita parler ». Donc on s'assied, on parle. Il faut du consensus entre les différentes initiatives, etc., etc. Mais il faut que ce soit vraiment un processus, c'est mon avis personnel, mené par les Haïtiens, pour les Haïtiens.
Peut-être une dernière question, Bruno Lemarquis. Vous avez une grande expérience des missions sur le terrain. Vous êtes en Haïti, vous avez été en Somalie, au Cambodge. Qu'est-ce qui différencie Haïti des autres missions où vous êtes allé?
Bon, d'abord, je suis personnellement très, très attaché à Haïti. C'est là que j'ai commencé ma carrière. J'ai travaillé 4 fois ici. Alors, je vais prendre une anecdote, mais dans le livre qu'avait écrit Samuel Hutchinson, il y a peut-être 30 ans, le choc des civilisations. Hein. Il arrivait à mettre presque tous les pays du monde dans des blocs. Sauf, si je me souviens bien, il y a 3 pays qu'il n'arrivait pas à mettre dans les blocs, dans les cases. Un, c'était le Japon. Un, c'était l'Éthiopie. Un, c'était Haïti. À cause de chacun leur histoire particulière, et l'histoire d'Haïti est particulière. Et quand on regarde Haïti dans la région, un pays noir, un pays pauvre, un pays créolophone et francophone, mais surtout créolophone, un pays qui est assez peu intégré dans la région, Donc, ils sont un peu à l'écart, quoi, avec une histoire très particulière. Une histoire très particulière, la première République noire indépendante, qui en a payé le prix, un prix très très fort pendant très longtemps. Donc, tout ça, ça explique. Beaucoup des nœuds gordiens d'Haïti viennent de là. Ensuite, ces structures de gouvernance, ces modèles de gouvernance, il y a rarement eu des passations de pouvoir pacifiques d'un président élu à un autre président élu. Il y a eu énormément de dictatures militaires dans l'histoire, etc. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instabilité. Un contrat social qui est très, très faible en Haïti. On dit toujours la République de Port-au-Prince et ses élites politiques, économiques, et puis le reste du pays qui n'attend pas grand-chose, souvent du centre, donc qui se débrouille, quoi. Voilà.
Bruno Le Marquis, vous auriez un dernier message pour nous?
Bon, en Haïti, il faut être optimiste. Donc, pour tous les collègues qui travaillent en Haïti, ils le savent très bien. Et pour tous les collègues qui un jour voudront travailler en Haïti, il faut vraiment y croire. Très, très, très rapidement, on peut déprimer parce que la situation est instable, les indicateurs ne progressent pas beaucoup, etc. Donc, il faut y croire. C'est un pays qui a énormément de richesses. Et donc, il faut arriver à contribuer à briser ce cercle de ces causes profondes, ouais, qui entraînent ce pays.
Bruno Le Marquis, merci beaucoup pour cette interview.